Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STM. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de la saison 1 de Prochain arrêt, nous allons parler d'une des questions qui est la plus souvent posée à quelqu'un qui travaille dans le transport collectif. Mais comment qu'on fait les horaires d'autobus? Comment qu'on procède aux horaires? Quelle est la mécanique derrière ça? Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler avec deux de mes collègues de la direction planification du service, Annick Lacombe et François Valiquette. Bonne écoute! Bonjour Annick, bonjour François.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre rôle à la STL concrètement?
Moi, je m'occupe du développement des services. Le développement des services, c'est tout ce qui est, entre autres, planification là, à moyen long terme, là, tout là, de notre réseau. Et je m'occupe aussi d'une partie un peu plus qualifiée d'opérationnel, qui est le transport scolaire intégré. Donc, dans le fond, cette partie-là, c'est vraiment plus un réseau qu'on voit à chaque année pour desservir certaines écoles secondaires à Laval.
De mon côté, je suis plus au niveau de la planification opérationnelle. Je suis vraiment à la coordination d'une équipe là, qui s'occupe de monter les horaires et les assignations des chauffeurs. Quand on parle d'assignation, là, c'est vraiment de déterminer en fait les voyages, la séquence de voyages que les chauffeurs vont faire. Donc, c'est une équipe de deux analystes puis un technicien qui s'occupe de monter, de s'assurer que tout fonctionne au niveau des horaires, des autobus, au niveau des assignation des chauffeurs.
Donc, de ce que je comprends, c'est que, bon, vous travaillez, puis c'est comme ça qu'on planifie un peu le réseau, puis vous me corrigerez si je me trompe. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle le court terme, c'est-à-dire on a des changements d'horaire qui ont lieu à différents moments dans l'année. Donc, ça peut être l'hiver, l'été, l'automne. Puis on a aussi, puis je pense que c'est ça que tu as mentionné, Annick, dans une de tes parties de ta tâche, c'est de planifier le réseau sur le moyen, le long terme. Donc, comment que la STL se projette dans l'avenir selon différents facteurs, que ce soit des développements de quartier, des développements d'entreprises, des développements de tout type. Donc, c'est comment que la STL est capable d'aller justement se greffer à cet élan-là. Donc, c'est bien ça.
Oui. En plein ça.
Parfait. Super. Donc, bon, j'avais quand même bien compris votre travail. Donc, en fait, ça fait combien de temps que vous êtes à la STL?
Pour ma part, moi, ça fait 2 ans que je travaille à la STL.
De mon côté, en fait, ça fait 10 d'années que je suis dans le transport en commun. Mais à la STL, proprement dit, là, ça fait à peu près environ près de 6 ans là, que je suis à la STL.
Là, je pense qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Là, je vous ai présenté, j'ai présenté votre travail, mais ce qu'on veut savoir un peu en tant que personne qui gravite autour du transport en commun, là, qu'on travaille à la STL ou qu'on soit un usager, c'est le réseau de la STL, concrètement, là, c'est quoi? Ça représente quoi au juste?
En fait, le réseau de la STL, c'est 45 lignes qu'on opère durant toute l'année. Là. On a différents types de lignes. On a quand même des lignes express, des lignes de pointe, des lignes régulières. Mais grosso modo, en fait, au total, c'est 45 lignes. On fait environ 2500 voyages qu'on opère dans une journée de semaine. Puis entre 1500 et 1600 voyages dans une journée de fin de semaine. Puis on fait grosso modo là, environ 58 000 km dans une journée. Puis c'est opéré environ avec 300 véhicules.
Quand on parle de voyage, concrètement, oui. Ça représente quoi? Est-ce que c'est un... Quand on dit un voyage, c'est un jargon qu'on risque sûrement d'entendre au long du balado. C'est quoi ou juste un voyage? Est-ce que c'est avec des gens qui sont à l'intérieur? Est-ce que c'est avec des clients, en fait?
Oui, en fait, de ce que je disais, en fait, les 2600 voyages, là, c'est vraiment des voyages... qu'on appelle, dans le fond, c'est des voyages qui sont opérés, en fait, pour le client. Enfin, évidemment, on a beaucoup plus de voyages que ça. Si on inclut tout ce qu'on voit, on est habitué de voir sur le réseau, là, sur le devant de l'autobus en transit. Ça, évidemment, on en a beaucoup là, de voyages associés à des... On appelle ça des haut-le-pied dans notre jargon, là, où c'est des voyages qui se permettent d'aller se positionner ailleurs sur le réseau ou tout simplement de revenir au garage. Mais les 2800 voyages que je parlais tantôt, là, c'est vraiment des voyages avec clients à bord là, qui se destinent, qui partent d'un point A au point B. Là.
On parle de voyage, mais concrètement, c'est combien de personnes qui se déplacent sur le réseau de la STN?
Ben, en fait, on le sait, on a vécu une pandémie. En fait, on la vit toujours. C'est sûr que ça a changé passablement le portrait de notre clientèle, là, de nombre d'usagers dans nos autobus. En fait, ce qu'il faut se dire, là, si on regarde avant pandémie, là, si on prend les chiffres, par exemple, de 2019, qui est une année complète sans pandémie, là, c'est environ pour l'année complète 19,4 millions de déplacements pour l'année 2019. Grosso modo, là, si on regarde le mois de septembre, c'est notre mois le plus achalandé. Là. Si on regarde pour une journée, c'est environ 88 000 montées par jour. Bon, c'est quand même pas négligeable.
Quand on parle de montée, François, c'est des gens qui montent littéralement à bord. Là.
Exactement. C'est ça. C'est quelqu'un qui a franchi la porte, qui est embarqué dans l'autobus en tant que tel.
OK. Pourquoi qu'on change les horaires? Pourquoi qu'on les garderait pas tout le temps comme tel?
Bon, si on prend juste l'été, par exemple, on voit, on le sait, là, les écoles sont en congé, donc on a quand même une bonne baisse d'achalandage au niveau de l'été, ce qui fait en sorte que nous autres, on doit se réajuster au niveau du service parce qu'on n'a pas besoin d'autant de voyages que pendant une période avec l'école. Sinon, pour la différence vraiment automne versus hiver, en fait, la principale raison, en fait, pourquoi on ajuste les horaires, c'est vraiment au niveau de la congestion, en fait. C'est qu'on a vraiment beaucoup plus de congestion à la rentrée. On le sait, le septembre, c'est tout le temps un mois assez intense sur les autoroutes, les routes, ce qui a évidemment des répercussions sur nos autobus, parce qu'on utilise le même réseau. Ce qui fait en sorte que nos temps de parcours sont plus longs. Donc, on doit donner plus de temps à nos voyages pour pouvoir garder notre bonne ponctualité là, au niveau de la clientèle. Et quand on bascule en hiver, ben là, on a beaucoup moins de congestion, on a moins d'enjeux de temps de parcours plus long. Donc, ce qui fait qu'on réajuste toutes nos horaires en fonction de ce temps de parcours-là, vraiment pour pouvoir mieux refléter la réalité du terrain puis s'assurer d'avoir une bonne ponctualité pour la clientèle, une bonne ponctualité également pour nos chauffeurs là, pour qu'ils puissent avoir assez de temps pour opérer leur voyage.
Donc, si je comprends bien, on fait des changements d'horaire, entre autres, parce qu'il y a des restrictions par rapport à la température, entre autres. Là, je veux dire, rouler l'hiver, l'été, c'est pas la même chose. Il y a une différence aussi au niveau de l'achalandage qui n'est pas réparti de la même façon.
Exactement.
Puis aussi un souci d'offrir un service qui est constamment ponctuel, donc le plus ponctuel
Exactement.
Possible.
Ben, la ponctualité, elle tourne toujours autour de 89-90%. En fait, c'est pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on fait des ajustements. Là, justement, on parlait des différentes périodes qu'on change nos horaires. Ben, c'est qu'on fait un réajustement de nos lignes. Dans le fond, on s'assure tout le temps, on regarde les lignes où les performances sont un petit peu moins bonnes, puis on révise les temps de parcours pour s'assurer que de tout le temps tenter de maintenir la ponctualité à 90%. C'est sûr qu'il y a plein d'aléas, là, dans le sens, il y a des travaux, des routes fermées. C'est sûr que c'est plus difficile au quotidien de maintenir des fois une ponctualité. Mais globalement, en fait, on est tout le temps autour de 90%. C'est notre cible aussi.
Là, on comprend pourquoi qu'on change les horaires. Comment qu'on change les horaires? C'est quoi la mécanique de ça? Parce que si on change les horaires 3 fois dans l'année, il y a du travail en amont qui se planifie. Puis c'est un travail aussi d'équipe avec les autres directions, les autres personnes. Bon, pour les fans du balado, vous avez sûrement écouté l'épisode avec les chauffeurs, vous avez écouté l'épisode avec les superviseurs. Donc, on vient un peu boucler la séquence avec vous aujourd'hui. Comment qu'on fait la planification d'horaire comme vous faites? C'est quoi les étapes?
En fait, la première étape, là, c'est un peu ce que je disais tantôt. En fait, là, la première étape, c'est vraiment l'évaluation des temps de parcours. Fait qu'on s'assure on prend en fait les lignes qui ont eu une ponctualité ça a été un peu plus difficile sur ces lignes-là, ben on va les réviser pour s'assurer que le temps de parcours soit plus juste avec la nouvelle réalité terrain. Puis une fois que les temps de parcours sont faits, évidemment, ça déplace les heures de passage aux arrêts. Donc, il y a tout un réajustement d'horaire qui doit être fait là, au niveau de ces lignes-là là, pour s'assurer qu'on arrive à bonne heure pour des sorties d'école, des sorties d'entreprise, les correspondances avec le train, les métros, le premier et dernier métro qui est toujours important de s'assurer de maintenir une correspondance dessus. Il y a évidemment toutes les correspondances autobus-autobus de la STL là, qu'il faut maintenir. Fait qu'il y a plusieurs vraiment contraintes d'horaire à respecter comme ça là, une fois que tous les temps de parcours ont été modifiés. Il y a aussi toute une réalité opérationnelle aussi qu'il faut qu'on s'assure de maintenir. Là. Par exemple, les conflits. Fait qu'il faut s'assurer, par exemple, au métro Montmorency qu'il n'y a pas deux départs de voyage qui se fassent à la même heure, parce qu'évidemment, il y a juste un autobus qui peut être là en même temps. Il y a aussi toutes les contraintes là, qu'on a au niveau du stationnement des terminus, parce que dans les terminus d'autobus, on a des places de stationnement, mais on est limité, évidemment. Là, on n'a pas des places à l'infini. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on doit s'assurer que tout fonctionne là, pour pas qu'il y ait d'imprévus sur le, pour pas qu'il y ait de problématiques sur le réseau. Et là, une fois que tout ça est fait, en fait, là, que nos horaires, on voit que tout est conforme. Là, on bascule, en fait, dans le fond, on prend ces voyages-là puis on les assigne à des chauffeurs. Donc, faut vraiment s'assurer que tout ça que tous nos voyages puissent être opérés par les ressources qu'on a. Puis évidemment, ben là, il y a je parle du transport régulier, là, mais il y a aussi vraiment tout le scolaire qu'il faut tenir en compte aussi, là, parce qu'il y a des éléments aussi qui doivent être ajustés du côté du scolaire.
C'est d'abord, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins ça, là, le transport scolaire intégré, c'est dans le fond un service qui est plus adapté, dans le fond, aux étudiants de certaines écoles secondaires sur le territoire de Laval. Donc, c'est un service, on offre dans le fond, on va créer vraiment des lignes spécifiques pour desservir les étudiants d'une certaine école secondaire. Pour information, là, le transport scolaire intégré, actuellement à la STL, on a 76 lignes scolaires intégrées. Bien, c'est un réseau qu'on revoit à chaque année pour s'assurer là, de capter la majorité des étudiants pour qu'ils puissent aller à l'école. Puis c'est vraiment un service qui vient là, en complémentarité là, à notre service régulier.
Je vais juste retourner un petit peu sur le réseau qui est plus régulier, François. Là, on commence un peu à comprendre un peu mieux comment on réfléchit au changement. La ponctualité, c'est vraiment une priorité. Je me demandais, est-ce qu'il y a une certaine hiérarchisation des lignes qui sont priorisées par rapport à la bonification de service? Des fois, on entend des gens qui se demandent pourquoi que telle ligne est priorisée versus une autre. Par exemple, une ligne que j'emprunte, pourquoi depuis les 10 dernières années, c'est toujours le même genre d'horaire, tandis qu'une ligne à côté de chez moi qui passe plus souvent. En fait, comment il réfléchit cette décision-là?
Ben, c'est une très bonne question. Je dirais en fait qu'on n'a pas de hiérarchie vraiment. Tout est une question d'achalandage, en fait. Fait que c'est sûr que tu sais, un voyage qui va déborder, forcément, c'est sûr que si évidemment on a les ressources pour, là, c'est sûr que ça va être ça va être un ajout de voyage, peu importe c'est quelle ligne. C'est sûr que par contre, il y a certaines lignes qu'on va peut-être mettre un peu plus de services sur nos lignes structurantes. C'est nos grands axes là, qu'on connaît, là, Notre-Dame, Concorde, Des Laurentides, Curie-Labelle. Dernièrement, justement, on a mis un peu plus de services dessus pour essayer de favoriser les correspondances. Fait qu'on sait que plus la fréquence de passage est bonne, plus les correspondances sont faciles à faire, moins il y a d'attente pour les clients.
Et quand on parle de correspondance, François, est-ce qu'on fait référence uniquement aux correspondances entre le réseau de la STL, donc d'une ligne à une autre, ou vraiment les correspondances avec le train, avec le métro?
Ben c'est sûr, en fait, le train, c'est plus facile, finalement, entre guillemets, là, mais c'est plus facile parce que c'est des horaires vraiment... C'est une ligne qui passe avec des horaires assez précises, fait que c'est assez facile d'aller s'accrocher à ce voyage-là. Par contre, là, on sait qu'au niveau du service régulier de la STL, en fait, si on prend une ligne, là, par exemple, qui prend des Laurentides au complet, ben on va croiser plusieurs autres lignes qui arrivent dans des axes transversaux. Là. Fait que c'est sûr que c'est un peu difficile d'aller tout le temps à avoir des correspondances parfaites avec toutes les lignes. Fait que une des solutions, c'est mettre de la fréquence. En fait, c'est que ça permet à peu importe la ligne qui croise d'avoir plus de chances que la correspondance soit réussie pour le client. Fait que c'est beaucoup plus difficile de prendre une correspondance STL-STL parce que il y a plein de chaque ligne a sa particularité, il y a des fréquences différentes, il y a des enjeux différents. Fait que ça rend tout ça beaucoup plus complexe là,
à... Oui. Puis en même temps, on n'est pas non plus à l'abri d'imprévus. Vous l'avez mentionné tous les deux tantôt, là, si jamais il y a un accident, ça peut paralyser le réseau. Je pense, François, c'est toi qui mentionnais quand on préparait justement le balado c'est un jeu de domino constant. Mm-hmm. Quand on change une pièce ou qu'on déplace quelque chose, ça peut avoir une incidence sur l'ensemble. C'est comme ça que le réseau est réfléchi. Puis je pense que c'est la meilleure façon d'offrir le service. Donc, si je comprends bien, c'est plus complexe d'ajuster le service sur des grands axes, comme tu mentionnais tantôt, des axes qu'on appelle des axes structurants. Donc, c'est vraiment les aortes, les colonnes vertébrales du réseau par exemple, des plus petites lignes avec un petit peu moins d'achalandage.
Ben effectivement, parce que les plus petites lignes avec moins d'achalandage ont souvent des fréquences plus faibles, malheureusement, parce que, comme je disais, c'est l'achalandage qui va déterminer la fréquence de passage souvent. Donc, moins le service est fréquent, plus c'est difficile de faire des correspondances parce qu'il y a moins de chances que dans le fond, il y a moins de possibilités au niveau des correspondances avec des lignes qui passent aux heures, par exemple, versus une ligne qui passe aux 15 minutes. Fait que c'est la complexité. C'est pour ça, souvent, nous autres, on va les surveiller un peu plus, ces lignes-là, avec moins de fréquence pour vraiment s'assurer là, que les correspondance, mais surtout aussi les sorties d'école, par exemple. Il y a des sorties d'école, mais on veut s'assurer, par exemple, qu'on soit capable de s'arrimer avec l'heure de fin de cours. On a plusieurs entreprises aussi qui ont communiqué avec nous autres, puis qu'on connaît leurs horaires de corps de travail aussi, qu'on s'assure de passer au moment où le corps de travail débute ou finit. Il y a plusieurs éléments comme ça là, qu'on réussit à surveiller quand même sur notre réseau. Là.
Puis il y a aussi des moments, ça arrive, qu'on crée une nouvelle ligne d'autobus. Je sais pas, la plus récente, je pense que c'est la 942, à moins que je me trompe, qui fait la liaison entre le quartier Saint-François puis la station de métro Montmorency, le terminus Montmorency, en fait. Puis, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi qu'on a décidé de créer une ligne? En fait, qu'est-ce que ça prend pour qu'on dise « Maintenant, c'est une nouvelle ligne d'autobus? »
D'abord, dans un premier temps, soit on a reçu des demandes, on reçoit des demandes de la clientèle ou d'autres personnes, ou bien c'est peut-être dans l'optique aussi de besoin en déplacement qu'on va vouloir anticiper. On parlait justement en début de balado là, d'un nouveau quartier, par exemple, qui se développe. Si c'est un quartier d'ampleur importante, ben ça va peut-être prendre une nouvelle ligne là, pour le desservir. Quand on parle de mode de transport structurant qui arrive sur le territoire de Laval, je pense entre autres à l'arrivée du métro là, quand il y a eu ça à Laval, on a revu aussi le réseau. Fait que il y a autant ces deux parties là de demande ou de besoin qu'on va anticiper. Puis une fois que on reçoit ou on veut anticiper ça, on va faire des analyses pour savoir quels changements on doit faire pour répondre à ce nouveau besoin-là. Puis ces analyses-là, évidemment, on regarde plusieurs critères. On va regarder d'abord l'achalandage de nos lignes actuelles, la performance de nos lignes actuelles pour voir, parce que on parle là, de mettre en place une nouvelle ligne, mais ça peut aussi être la modification d'une ligne qui existe déjà pourrait peut-être répondre à ce besoin-là. Si on parle, tu sais, comme d'un nouveau quartier, on pourrait peut-être prolonger une ligne existante pour aller desservir ce quartier-là. Donc, on va regarder d'abord la performance de nos lignes actuelles. On va regarder aussi les besoins en déplacement là, de la majorité des usagers là, de la STL. C'est sûr qu'on va prendre en compte toutes les demandes de la clientèle qu'on reçoit dans les dernières années, vu que souvent, c'est des changements qui se font plus à moyen long terme. C'est pour ça qu'on regarde là, ce qui nous a été proposé ou demandé par des clients dans les années précédentes. Tous ces critères-là font partie, là, dans le fond, de l'analyse qu'on va faire sur, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour répondre à ce nouveau besoin-là. On se fait plusieurs scénarios. On va simuler. On a des logiciels là, qui nous permettent, dans le fond, avec des données de déplacement, on a des données, dans le fond, d'origine et destination d'un déplacement pour les gens dans la région métropolitaine. Fait qu'on va utiliser ces données-là dans nos logiciels pour simuler les déplacements des gens sur des nouveaux réseaux fictifs. Fait qu'on va tester ça Puis on va pouvoir regarder quelle modification est la meilleure. Puis ça va nous permettre d'établir de cette manière-là le tracé d'une nouvelle ligne. Puis là, une fois qu'on a établi, OK, où est-ce qu'elle va passer, puis sa fréquence aussi, dans le fond, c'est ce qui nous permet là, de décider, dans le fond. Puis par la suite, bien évidemment, là, il y a d'autres étapes là, plus validées. Il faut vérifier sur le terrain là, qu'un autobus peut bien manœuvrer sur les rues de ce tracé-là. Il faut aller poser des panneaux d'arrêt. Fait que plein plus d'étapes plus sur le terrain là, à faire. Là. Et aussi dans nos systèmes, il faut intégrer cette nouvelle ligne-là dans tous nos systèmes pour faire le suivi là, de son opération, mais aussi pour les clients, pour qu'ils puissent avoir accès à l'information de cette nouvelle ligne-là.
On comprend que c'est pleinement réfléchi. Là. C'est pas une impulsion de votre part de dire bon ben maintenant là c'est le temps parce que ça serait une plus belle, un plus beau tracé de tourner à droite plutôt qu'à gauche. Ça m'amène à parler d'un autre service à la SL qui est un petit peu méconnu, qui est vraiment en support le service de taxi collectif. Comment fonctionne le service de taxi collectif à la STL? C'est quoi la mécanique derrière ça pour le client? Juste en quelques mots, nous expliquer c'est le projet.
Donc, dans le fond, le taxi collectif, c'est un service qui est offert, en effet, par la STL, en coopération avec un fournisseur de transport par automobile. Il y a deux catégories de services de taxi collectif, dans le fond. Il existe le service sur appel, c'est qu'on établit un horaire de passage des taxis à des arrêts et le client doit appeler pour demander que le taxi soit présent à l'heure indiquée à l'arrêt pour qu'il puisse prendre, dans le fond, le taxi et se déplacer. Et ensuite, on a la deuxième catégorie qui est le service régulier, c'est dans le fond, on peut le voir vraiment comme une ligne d'autobus. Donc, on a un horaire avec des heures de passage aux arrêts, puis il y aura tout le temps un taxi qui va être présent à ce moment, ben, selon l'heure et l'horaire indiqué. Ça résume un peu comment fonctionne le taxi collectif.
Dernière question. Cette année, vous en avez clairement entendu parler. La STL a eu 50 ans. Moi, j'ai le goût de vous entendre. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour cet anniversaire, cet anniversaire qui est assez spécial, 50 ans, là, pratiquement les noces d'or?
Le 50e anniversaire de la STL tombe probablement dans l'année la plus spéciale en fait, qu'on a eue. On parlait du COVID. Moi, je souhaiterais à la STL qu'elle se rétablisse, que l'achalandage revienne, puis évidemment qu'on puisse se répondre le mieux possible aux besoins de la clientèle, en fait, puis qu'on puisse continuer à là où on a laissé avant la pandémie, c'est-à-dire une belle croissance d'achalandage, l'innovation aussi, continue toujours au niveau de l'innovation pour pouvoir, au final, toujours offrir le meilleur service aux clients. Que ce soit de la nouvelle clientèle ou de l'ancienne clientèle. C'est ce que je lui souhaiterais pour les prochaines années.
Et moi, je dirais que ça va un peu dans le même sens. Là. Quand tu as demandé ce qu'on souhaitait à Estelle, pour son 50e, là, j'ai pensé tout de suite au mot comme s'adapter. Fait que bien s'adapter, dans le fond, parce qu'on vit beaucoup de changements là. Puis je me suis tout de suite dit comme ben je souhaite qu'elle s'adapte bien à les bouleversements qu'il y a eu, puis ce changement, parce que nous, bon, on est en planification, fait que c'est sûr qu'on pense plus au déplacement des gens, la mobilité qui va changer suite à la pandémie. Mmh. Et je souhaite à la STL qu'elle s'adapte bien à tout ça, qu'on puisse bien, dans le fond, prévoir des nouvelles connexions de nos lignes, des nouvelles lignes qui puissent bien s'adapter, mais pas juste au niveau là, des lignes, mais aussi de tout ce qui est offert.
Ben, Annick et François, merci beaucoup d'avoir participé au balado. J'apprécie vraiment les échanges qu'on a eus, puis je pense que tous ceux qui ont écouté vont avoir une meilleure idée de la conception du réseau en général dans le quotidien. Donc, merci beaucoup. Très enrichissant.
Merci, ça fait plaisir.
Voilà, c'est ce qui conclut l'épisode, mais aussi la saison 1 de Prochain arrêt, un balado de la STL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et j'espère que vous en avez appris davantage sur le transport collectif à Laval. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au balado sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Google ou Apple Podcasts, Spotify ou encore Balado Québec. Prochain arrêt, un balado de la STL, est une production de la Direction Communication Marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!